Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagna et voici vos manchettes. Une charte pour des technologies inclusives en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme. Desjardins dévoile sa caisse mobile. Rimouski, taxi 800, perd un permis de transport adapté. Les Syriens mutilés et traumatisés par les armes explosives. Et Yosna Kaki, ingénieure et non-voyante employée de Google. C'est au terme de la troisième édition de la journée Technoclinique, organisée par l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, DI et TSA, rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, le CIUSSS-MCQ, et le Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique, qu'une charte pour des technologies inclusives a été lancée. Malgré le potentiel indéniable de la technologie, cette dernière reste sous-utilisée par les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant un trouble du spectre de l'autisme. Au plan sociétal, un fossé s'est graduellement creusé entre ces personnes et les citoyens branchés. M. Danny Lucier Desrochers, directeur général du CPEITC et chercheur régulier de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, explique. Un des objectifs était de mobiliser, de sensibiliser et d'engager l'ensemble des acteurs de la communauté afin d'inclure tous les citoyens dans la société du numérique. Cette démarche se traduit par des actions concrètes amenées dès aujourd'hui. Ainsi, au cours de cet événement, les conférenciers invités ont abordé différentes thématiques liées à l'utilisation des technologies par les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant un trouble du spectre de l'autisme. Pensons notamment à la question de l'éthique, de la protection des données personnelles, la cyberintimidation, l'utilisation des tablettes en communication, ainsi que l'évaluation de l'utilisation du robot en intervention. Issus du milieu de la santé et des secteurs de l'économie, de l'éducation, de l'innovation, des milieux communautaires et des entreprises privées, les 150 participants ont joué un rôle d'influence. Leur avis a été considéré et entendu. En effet, c'est grâce à leur expertise et à leur réflexion partagée sur les différents enjeux vécus par les personnes qu'un comité d'experts a pu formuler les 10 recommandations visant à favoriser l'inclusion numérique des personnes ayant une DI ou un TSA. Ces dernières ont également été des parties prenantes de cette consultation quant à leur expérience d'utilisation des différentes technologies. Au cours des prochains mois, un plan d'action de 5 ans précisera les actions à entreprendre pour concrétiser les recommandations de la charte. En terminant, notons que l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, qui compte 38 chercheurs issus de 9 universités québécoises et françaises, a son affiliation universitaire avec l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2008. Au plan administratif, l'Institut est rattaché au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Le mouvement Desjardins a présenté hier, près de la tour de la Cité Desjardins de la coopération à Lévis, un concept expérimental de caisse mobile. Assemblé et conçu entièrement au Québec, à même un véhicule Novabus d'occasion, ce centre de service vise à offrir aux membres et clients de Desjardins une expérience différente et une option supplémentaire quant à leur façon de transiger avec leur institution financière. Concrètement, un guichet automatique ainsi qu'un espace conseil où des conseillers de Desjardins pourront répondre aux questions des membres et clients ont été aménagés dans l'autobus. Le véhicule aura une autonomie opérationnelle de 10 heures en mode électrique et il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Avec sa nouvelle caisse mobile, Desjardins continue de se rapprocher de ses membres en expérimentant de nouveaux moyens pour les rejoindre. Le comportement des consommateurs évolue rapidement et il importe de s'y adapter. Ce projet pilote nous permettra de valider un maximum d'usages possibles et de voir comment nos membres et nos caisses peuvent bénéficier de cette innovation technologique, a précisé Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Notons finalement que cette caisse mobile sera en expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2016 dans plusieurs régions du Québec. Elle sera utilisée dans divers contextes, par exemple pour des activités de développement des affaires ou encore pour permettre la continuité de service dans le cas d'un sinistre. La Commission des transports du Québec, le CTQ, est de rendre une décision refusant à Taxi 800 de Rimouski le renouvellement de l'un de ses permis de transport pour besoins particuliers. Un permis pour besoins particuliers est un permis communément appelé de transport adapté pour un véhicule spécialement transformé qui offre un service de taxi alternatif aux personnes en perte d'autonomie. La demande en était une de renouvellement pour un des 5 permis de transport adapté de la corporation Taxi 800. La CTQ n'y va pas par 4 chemins pour expliquer sa décision. La commission ne peut cautionner qu'une entreprise fasse du transport par taxi en dehors du cadre légal et va rejeter sa demande. Taxi 800 n'ayant pas démontré qu'elle est en mesure de se conformer aux dispositions applicables en regard de la loi et du règlement, la commission rejette sa demande de permis, lit-on, dans la décision. Il semble que l'entreprise n'avait pas de contrat en bonne et due forme avec le Centre de santé et services sociaux de Rimouski-Neigette depuis 2013 et que des tarifs arbitraires étaient demandés aux usagers. Par ailleurs, la directrice de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Thérèse Sirois, explique qu'il s'agit d'une perte de service pour les personnes démunies sur le plan du transport. 4 au lieu de 5 permis, ça en fait un de moins, donc une perte. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Handicap International a publié hier le rapport « Syria, a Mutilated Future », mettant en évidence les effets dévastateurs des bombardements sur les Syriens déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés en Jordanie et au Liban. Selon le rapport, 15 % des victimes recensées ont dû être amputées, 80 % sont traumatisées et en grande détresse psychologique. L'association exhorte les parties prenantes au conflit à mettre fin à l'utilisation des armes explosives en zone peuplée et rappelle que l'accès humanitaire doit être assuré pour répondre aux besoins des personnes touchées par le conflit. Le rapport repose sur l'analyse effectuée entre juin 2013 et décembre 2015 de la situation de 25 000 personnes bénéficiaires des actions de Handicap International, soit déplacées en Syrie ou réfugiées en Jordanie et au Liban. Ce rapport montre que la majorité des blessures constatées sont causées par des armes explosives. Le rapport met en lumière les conséquences dévastatrices de l'utilisation des armes explosives en zone peuplée. 89 % des blessés par arme explosive ont un handicap temporaire ou permanent. 80 d'entre elles montrent des signes d'une grande détresse psychologique. Et sont 66 % à se sentir incapables de mener des activités quotidiennes essentielles en raison d'angoisse, de stress, d'épuisement physique ou moral. L'absence de services médicaux adaptés en raison de l'effondrement du système de santé en Syrie ou dans les pays limitrophes, de l'incapacité des structures médicales à répondre aux besoins des réfugiés blessés, a des conséquences graves sur les patients, séquelles avec douleur à vie, amputation, déformation du membre touché, handicap, voire décès. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Handicap International a répondu à l'appel de la coalition humanitaire en s'associant à la première campagne canadienne de mobilisation sur les réfugiés afin de porter la voix des personnes handicapées et des victimes de l'usage des armes explosives en zone peuplée. Yasna Kaki, une jeune non-voyante, a été la première surprise il y a 8 ans quand le géant Google l'a approchée pour une entrevue qu'elle n'avait même pas sollicitée. C'est son frère qui avait remis son CV à un ami travaillant chez Google. La femme était devenue aveugle en 2004 après une opération pour une tumeur bénigne. Quand Google est venu la chercher, l'entreprise n'avait qu'une équipe à temps partiel sur les questions d'accessibilité. C'est là que Yasna a fait sa place comme ingénieure en test de programme d'accessibilité. Des programmes destinés aux non-voyants, mais aussi à d'autres personnes ayant des handicaps différents. Aujourd'hui, elle dirige toute l'équipe d'ingénieurs qui font les tests des produits. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix, animée et la recherche. Je l'animais et j'avais fait la recherche. C'est aussi la fin des voies de service pour ce 21. J'allais dire septembre, pour moi je veux de la fraîcheur. Pour ce 21 juin 2016, on se revoit tout le monde demain à 9h.